Bonjour Alain Baraton, jardinier de Versailles. On commence avec une tradition, cette tradition d'aller tirer les rois.
Oui, j'avais envie de faire plaisir à Karine ce matin, car je crois que Karine est très très proche, très attirée par toutes ces fêtes populaires. Donc cette tradition de tirer les rois date de la Rome antique, voyez-vous, c'est vieux.
Je ne savais pas.
Eh bien oui, quand il était célébré les Saturnales, des fêtes orgiaques durant lesquelles un roi était élu. Alors pour ce faire, les participants plongeaient la main dans une urne et attrapaient une fève qui, en fonction de la couleur, blanche ou noire, désignait celui qui pouvait tout se permettre. Pendant 7 jours, les maîtres, les esclaves et les condamnés à mort se retrouvaient sur le même pied d'égalité, mais malheureusement, sitôt la fête finie, ne rêvons pas, le condamné élu roi était exécuté.
Voilà. Et alors en France, comment ça s'est passé?
Alors au Moyen-Âge, il est célébré une fête qui donne lieu à toutes sortes d'extravagances, comme l'élection de l'évêque des fous qui, 3 jours durant, occupe le siège épiscopal. Sous l'Ancien Régime, beaucoup plus sage, il est de bon ton d'offrir au Seigneur un gâteau baptisé logique, gâteau des rois, avec une fève dissimulée dans la pâte, et à partir de 1801, sous le Concordat, la fête se perpétue et l'on continue de dissimuler une fève. Je parle bien du légume, bien entendu. Et même si la tradition devient quelque peu religieuse, on élit encore et toujours le roi de la soirée.
Et alors ce légume, pourquoi avoir choisi la fève?
Avant d'être remplacé par des figurines, la fève était l'un des légumes les plus consommés en France. C'est l'un des tout premiers légumes semés au printemps, donc il a un peu la symbolique de la renaissance, de la vie, voire même de la fécondité. Et il peut se consommer sec, voyez-vous.
C'est vrai.
Parfait pour être conservé, donc utilisé en plein cœur de l'hiver.
Vos conseils, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs de France Inter. On commence avec Sarah, qui a des pittosporums, vous nous direz ce que c'est. Ils ont été plantés en 2017. Alors, certains poussent normalement et d'autres qui sont près de pins, des pins, P-I-N-S, eux, ils restent malingres. Alors, nous avons déjà augmenté l'arrosage goutte à goutte, mis du broyat. Une autre solution, si les pins sont responsables, serait de les couper. Qu'en pensez-vous?
Non, on ne va pas couper des arbres.
J'en étais sûr.
Voilà, il faut aménager.
Mais
vous savez, là encore, quand on plante des végétaux quels qu'ils soient, il faut tenir compte des végétaux déjà présents. Alors le pittosporum, pour répondre à votre question, j'en avais parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. Ce sont des végétaux à feuilles persistantes, aux feuilles coriaces et ovales, et surtout ils se reconnaissent facilement les yeux fermés par leur parfum incroyable au printemps d'oranger. Ce sont des plantes que l'on trouve souvent également au bord du littoral parce qu'ils supportent les embruns. Donc ce sont des plantes résistantes qui sont capables de résister au manque d'eau, mais qui ont besoin toutefois d'eau de tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, ils peuvent accepter les périodes de sécheresse, mais ont besoin d'eau de manière assez régulière. Et en fait, le problème des pins, c'est pas tellement les branchages, c'est certainement les racines. Un pin adulte consomme chaque jour plusieurs centaines de litres d'eau. Donc, malheureusement, il faut déplacer les pittosporums et ne pas couper les pins.
Paulette a gardé ses poinsettias de l'année dernière, mais ils ne fleurissent pas. Est-ce que c'est normal, docteur?
Alors, oui, parce qu'une technique. Le poinsettia, je rappelle, ce sont ces fleurs rouges, vous savez, aux feuilles rouges, car ce ne sont pas des fleurs, ce sont des feuilles qui rougissent. C'est la plante la plus vendue au monde pour les fêtes de Noël. Rien que les Italiens en commandent uniquement pour Noël, 15 millions de pots.
Mais c'est vrai qu'on les voit partout.
C'est considérable. Alors, simplement, pour ceux qui ont reçu des poinsettias, et en France, vous êtes à peu près 5 millions à en avoir reçu, le conseil est le suivant. En avril, vous réduisez les tiges d'un tiers, mais vraiment d'un tiers, et des tiges qui ne dépasseront pas 10 cm de hauteur. Vous rempotez le poinsettia dans un pot à peine plus grand et vous arrosez normalement. Mais surtout en septembre, vous les mettez dehors au printemps. En septembre, vous les mettez à l'obscurité totale de 18h le soir à 8h du matin pendant un mois. Elles ont besoin d'une obscurité totale la nuit pour
se régénérer.
Voilà, pour se régénérer et offrir ces feuilles rouges qui font tout le charme du poinsettia.
Sylvana, un mirabellier vieux de près de 30 ans qui a une grande envergure, elle souhaiterait le tailler légèrement car il dépasse vers la propriété voisine. Quand peut-on tailler ce mirabellier?
Il faut vraiment le faire avec délicatesse. Le mirabellier, comme tous les pruniers, déteste être taillé. On peut donc le faire en hiver et uniquement en hiver, mais vraiment, on se limite à couper ce qui dérange, on ne va pas au-delà.
Un dernier conseil pour le week-end.
Évasion botanique, il est signé de Véronique Mur, une artiste botaniste qui sait de quoi elle parle et elle photographie merveilleusement. C'est un bel ouvrage de photographie. Ce sont des photos lumineuses que j'ai véritablement appréciées. C'est publié aux ateliers B, B-A-I-E, Véronique Mur, Évasion botanique, Atelier Bay. Allez, 192 pages, 39 euros, vous savez tout.
39 euros, on connaît même le prix.
Eh ben oui.
Toujours avec Alain Baraton.
C'est important.
Merci Alain Baraton, jardinier de Versailles. À demain.